Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le Bunker, consacré aux films et aux séries de guerre, et pour nous parler d'un film qui touche à la guerre de sécession intitulé Gettysburg, un film de 1993 de Ronald Maxwell, j'ai le grand plaisir de recevoir Vincent Bernard, journaliste spécialisé en histoire, ancien rédacteur en chef adjoint de Guerre et Histoire. Historien vous-même, notamment, vous êtes un des meilleurs spécialistes français de la guerre de sécession et vous avez notamment publié à la fois des biographies, une biographie du général Lee, une biographie d'Ulysse Grant aussi, et vous avez aussi d'ailleurs publié la synthèse qui fait, je crois, référence sur le sujet il y a quelques mois, judicieusement intitulée La guerre de sécession, qui est parue chez Passé Composé. Donc, spécialiste de tout ça pour nous parler de ce film qui touche évidemment à la guerre de sécession, ce Gettysburg de Ronald Maxwell. Donc, bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour et merci de me recevoir.
Alors je veux dire, c'est un film, c'est quelque chose ce film, hein, parce que vous me l'avez, on peut dire, je peux dire, vous me l'avez indiqué, on a monté ça et on a monté un enregistrement hier, etc. Vous m'avez dit que ce film était super, j'en avais entendu vaguement parler, mais pas vraiment, je me suis dit que c'était l'occasion, donc que j'en étais très content. Et puis là, je me suis mis, donc on a fixé l'enregistrement, je me suis mis à le chercher, et là je me suis aperçu qu'il faisait quand même 4h30. Et que c'est apparemment l'un des films les plus longs de l'histoire du cinéma américain, en tout cas sorti en salle. C'est donc une sorte d'immense fresque reconstitution, enfin je sais même pas comment le décrire, donc qui date de 1993, avec on peut signaler au casting, notamment pour les acteurs les plus connus, Martin Sheen et Jeff Daniels, dans deux des postes, des rôles principaux. Bon, et donc je me suis dit, en 24 heures, que ça allait être compliqué, que j'avais pas le temps, je me suis dit, je vais faire des sondages par ici, par là, pour comme ça je me ferai au moins une idée du film et je pourrai en parler. Et je vais confesser que j'ai complètement échoué et que je me suis complètement laissé. Ouais, je me suis laissé happer complètement par ce truc-là et je me suis retrouvé 4h30 plus tard à avoir passé un super moment, mais être très en retard sur le reste des choses que je devais faire hier. Bref, c'est un film assez exceptionnel, assez incroyable par la précision, par la reconstitution et aussi par la qualité, je trouve, narrative, même si ça n'engage que moi. Mais donc Vincent Bernard, dites-nous peut-être, entrons dans le vif du sujet, dites-nous ce qui vous intéresse particulièrement en tant qu'historien de la guerre de sécession dans ce film en particulier. On peut préciser, c'est pas non plus un sujet particulièrement délaissé par le cinéma américain. On avait parlé à ce micro dans ce format de Glory d'Edward Zwick avec André Loez il y a longtemps maintenant. Enfin bon, des films sur la guerre de sécession, il y en a un paquet, mais celui-là, il sort quand même du lot, donc dites-nous peut-être ce qui vous a intéressé, ce qui vous a motivé, disons, à nous en parler.
Moi, je m'intéresse à la guerre de sécession depuis bien plus longtemps que la sortie de ce film, bon, en tout cas quelques années avant, ce qui date quand même de 93, donc c'est quand même pas hier. Je suis tombé dessus de manière naturelle, c'est-à-dire que quand on s'intéresse au sujet, évidemment, on entend parler de Gettysburg, même s'il a été absolument confidentiel en Europe, je ne sais même pas s'il est sorti au cinéma. Et c'est tout simplement un monument, effectivement, un monument de 4 heures, voire plus dans la version longue. Et c'est un film.
Je peux préciser que la version très longue, qui est celle que j'ai vue, c'est 4h31, a priori, on ne fait pas plus. Et c'est beaucoup, mais c'est très bien.
Alors, je ne crois pas l'avoir vue d'ailleurs, la version très longue. Je me suis contenté de la version classique de 4 heures.
Je ne suis pas sûr de regarder la version 4 heures pour vous dire ce qui a changé entre les deux.
Bon, tant pis, je serai obligé de le faire moi-même peut-être. Une plaisanterie à part, oui, c'est un monument. Et c'est tiré, il faut dire que c'est un film qui est tiré d'un roman qui a eu le prix Pulitzer dans les années 70, qui était The Killer Angels de Michael Shara, et qui était un succès vraiment aux États-Unis, succès monumental, et qui donc surfait sur la vague de ce, historiographique même de cette époque, la vague mémorielle également, qui consistait à une grande réconciliation en fait entre les deux Amériques qui s'étaient combattues un siècle auparavant, et autour donc de la mythique bataille de Gettysburg, qui n'est pas tout à fait la plus grande, qui n'est pas tout à fait la plus décisive, pas tellement en fait, si on va au fond des choses, mais disons qui est la plus symbolique et la plus au plan mémoriel, qui c'est voilà, c'est la plus importante bataille de la guerre.
Mais justement, et donc, peut-être replacer l'occasion de la replacer, parce qu'on connaît toujours assez mal dans le fond la guerre de sécession en France, l'événementiel, c'est-à-dire on a des noms de batailles et on a parfois du mal à les replacer dans l'ordre. Donc Gettysburg, mentionnons que c'est en 1863.
Voilà. En juillet 1863,
oui. Pourquoi est-ce que c'est resté à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'elle a, à ce point-là, peut-être enveloppé en tout cas une partie des autres et de la riche histoire militaire de la guerre de sécession?
C'est une bataille qui est centrale finalement. Alors, beaucoup l'ont vue comme décisive, comme le vrai tournant de la guerre de sécession, ce qui est une dimension qui est extrêmement discutable, mais on va pas entamer ce débat aujourd'hui. Disons qu'elle a pour particularité d'intervenir à l'apogée de la puissance militaire de la Confédération et de la menace que représente la Confédération pour la cohésion de l'Union, et que c'est une grande bataille qui se déroule pendant une invasion de l'armée du général Lee au nord et dans l'État de Pennsylvanie. C'est la bataille la plus meurtrière de la guerre. Elle a fait plus de 50 000 victimes. Donc c'est vraiment en tant que tel un événement militaire majeur et qui intervient également dans un contexte assez particulier. Et un autre élément qui va contribuer à sanctifier, j'allais dire, cette bataille dans la mémoire américaine, c'est le fameux discours que va y prononcer Lincoln quelques mois plus tard, en novembre 1863, en transformant les lieux en un immense cimetière dédié à la mémoire donc des combattants de l'Union, et où il va prononcer le fameux discours, le gouvernement pour le peuple et par le peuple, qui est un des grands discours fondateurs de la politique américaine et de l'histoire américaine des années suivantes et des décennies suivantes. Donc c'est une bataille qui a un poids symbolique extrêmement important. Elle est extrêmement disputée, donc elle a pris une place dans la mémoire qui est démesurée par rapport à son importance réelle. Voilà.
Mais alors on peut le dire, et d'ailleurs c'est un peu comme ça que c'est présenté dans le film, c'est présenté comme la bataille de la dernière chance pour l'armée de l'Union, c'est-à-dire voilà, les confédérés sont pas très loin de menacer Washington, et il faut absolument les arrêter maintenant, parce que sinon, s'il y a l'idée que si cette bataille est perdue par les forces fédérales, les forces du Nord, la guerre est probablement plus ou moins perdue, et d'ailleurs c'est quelque chose que les personnages répètent à de nombreuses reprises, de est-ce que ce serait pas la dernière bataille de la guerre, si elle est gagnée, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, importance en tout cas mythifiée même dans le film lui-même, puis qui participe évidemment de sa légende. Et ensuite, si on entre peut-être un peu plus dans le détail, dans la manière dont elle est représentée, on va en reparler, mais j'ai pas souvent vu une bataille faite avec un tel souci de précision et d'exactitude, aussi bien sur les matériels que sur les mouvements de troupes, etc. Mais en tout cas, comment est-ce que ça vous a interpellé, en quelque sorte, la représentation de Gettysburg par ce film ?
C'est quelque chose qui est tout à fait inédit par son ampleur, alors qu'il s'appuie sur les immenses groupes de reconstituteurs qu'il peut y avoir aux États-Unis, qui tous les ans reconstituent la bataille. Il y a vraiment des milliers de gens qui se retrouvent là sur les principaux champs de bataille de la guerre de sécession. Donc tout ça est mis au service de la mise en scène.
On peut préciser d'ailleurs que ça a été tourné sur les lieux même de Gettysburg.
C'est tourné sur les lieux, absolument.
C'est mis à la fin du film. C'est dans le Gettysburg National Park. Enfin, je veux dire, c'est vraiment...
On reconnaît les lieux quand on connaît la bataille, effectivement, le Seminary Ridge avec eux, absolument. Le Little Round Top, on est sur les lieux mythiques de la bataille, avec des milliers de figurants et de reconstituteurs qui font ça à longueur d'année quasiment, et donc qui ont une précision, qui ont apporté une précision technique et matérielle qui est assez exceptionnelle. Et puis c'est un film qui est assez rare dans le sens où, on l'a dit tout à l'heure, il fait 4 heures, et c'est 4 heures sur la bataille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une heure d'introduction sur le contexte, une heure de conclusion avec ce qui se passe après. Non, on commence le matin du 1er juillet 1863, de mémoire, ça commence vraiment à ce moment-là, et puis on s'arrête à la fin de la bataille, au soir du 3, après la charge de Pickett, quand le général dit l'armée confédérée doit concéder leur défaite. Donc on est vraiment sur un objet qui on est sur 4 heures d'anatomie de la bataille, pour reprendre le fameux titre de Keegan, là où on voit par la bataille essentiellement par les yeux des officiers, mais des officiers de terrain. On est à la fois dans une vision un peu de haut de la bataille, mais on est quand même sur le terrain et très proche du terrain, et on en suit les différentes phases, même si elles sont souvent simplifiées, un peu mythifiées également. On théâtralise beaucoup les principaux épisodes, comme la fameuse résistance du 20e régiment du Maine sur Little Round Top, mais on a l'articulation de la bataille telle qu'elle s'est vraiment déroulée en continu.
Ouais, c'est intéressant que vous parliez du terrain, parce que moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est que je ne crois pas avoir déjà vu au cinéma, enfin à l'écran d'une manière générale, une représentation d'une bataille qui insiste à ce point-là sur le terrain au sens de la topographie. Et c'est quelque chose qui est omniprésent dans le film, c'est quelque chose dont on parle d'ailleurs souvent à ce micro, le fait que en fait, la géographie, la topographie, la manière dont les lieux sont faits, c'est quand même l'élément premier d'une bataille, c'est là-dedans qu'on se bat. Et en fait, c'est un film qui tourne autour et qui vraiment se saisit du sujet, c'est-à-dire évidemment il y a les grands personnages, on suit les grands personnages, leurs histoires un peu rapidement d'ailleurs, mais surtout on s'aperçoit que c'est une bataille qui est essentiellement sur le terrain, c'est-à-dire les forces de l'Union sont en contre-haut, ils ont les crêtes, ils tiennent la position haute, une référence avec des phrases qui forcément évoquent Star Wars pour d'autres raisons, mais ils tiennent la position haute. Et on voit que, en fait, toute l'histoire de la bataille, c'est les confédérés qui essayent de reprendre cette position haute, et que c'est une boucherie, parce que, en fait, quand on a la position supérieure, eh ben, c'est quasiment impossible à reprendre, en tout cas dans les années 1860, avec le niveau d'équipement, et notamment les feux d'artillerie et les capacités de feu qui sont celles de la guerre de sécession.
Bien sûr, mais c'est tout la topographie est au cœur du récit de la bataille, parce que tout tourne effectivement autour. La bataille n'a lieu que pour la possession des hauteurs qui environnent Gettysburg.
Gettysburg, qui est une ville qui n'a aucun intérêt par ailleurs, et c'est dit à de multiples reprises, c'est une localité sans aucune pertinence, mais par contre, c'est le lieu qu'ils ont choisi pour la bataille, et les forces de l'Union l'ont choisi précisément parce qu'il y a une position haute à tenir.
Alors ça fait un petit peu partie du mythe justement qu'il y a autour de Gettysburg, c'est-à-dire le petit village bucolique perdu au fin fond de la Pennsylvanie sans aucun intérêt, où les deux plus grandes armées de l'époque se retrouvent totalement par hasard. Ça c'est faux. Enfin c'est faux. C'est très exagéré. C'est-à-dire que Gettysburg est une petite bourgade qui à l'échelle américaine est déjà assez importante. C'est éclairé au gaz. Il y a 2500 habitants. Il y a plein de commerces. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans le village perdu à la Sergio Leone des westerns d'antan. Et d'autre part, c'est surtout un nœud routier. Partent 10 routes qui rayonnent donc dans toutes les directions vers Washington, Baltimore, Philadelphie. Donc c'est un vrai nœud stratégique. Il y a une voie ferrée qui est inachevée mais qui arrive par l'est et qui dessert aussi la ville par l'est. Donc ça n'est voilà, cette image du Gettysburg par hasard est en grande partie issue de la légende qui s'est tissée dans les années suivantes. Si les armées de Lee et de Meade se rencontrent aux alentours de Gettysburg, c'est pas un hasard. C'est parce que les circonstances de la campagne font qu'ils visent précisément ce nœud-là. Et pour contrôler ce nœud important, il s'agit d'en contrôler les hauteurs. Voilà. Donc je fais pas le détail des débats qui ont eu lieu au cours des journées précédentes pour savoir si voilà, on envoie des éclaireurs, on passe par là, on passe pas par là. Mais enfin, la question est qui va s'emparer en premier de Gettysburg et de ses hauteurs. Ça c'est quelque chose qui ne ressort pas vraiment dans le film, parce qu'encore une fois, c'est tiré d'un roman à la base, un roman extrêmement précis, extrêmement travaillé, extrêmement sourcé, mais voilà, une vision un peu romanesque de la chose. Donc et pour en venir à votre question initiale, ouais, la topographie est au cœur du récit, parce que quand la cavalerie de Bufford arrive au matin est arrivée la veille.
Donc la cavalerie de Bufford, c'est la cavalerie donc unioniste des forces nordistes qui arrive le premier là et qui, je résume très grossièrement ce qui est le premier tiers du film, c'est ils arrivent là, ils comprennent que l'armée confédérée va arriver, et notamment l'infanterie, et qu'il faut absolument les retarder pour qu'ils ne prennent pas les hauteurs, parce que s'ils prennent les hauteurs, ça va être très difficile.
Pour préserver les hauteurs de Gettysburg. Alors même au départ, l'idée du général Reynolds, qui est le principal commandant de l'Union, qui arrive dans la matinée, c'est même de garder les hauteurs au nord de Gettysburg, c'est-à-dire d'arrêter la progression de l'armée de Lee. Ils vont être sévèrement battus au terme d'une journée de combat qui est extrêmement disputée, hein, en elle-même. La première journée de la bataille, c'est pas du tout un prologue ou quelques escarmouches, comme on peut éventuellement le comprendre dans le film. Non, c'est vraiment une bataille rangée importante et qui s'achève par une défaite de deux corps de l'armée de l'Union qui sont obligés de se replier au sud de Gettysburg et sur les hauteurs de Cemetery Hill, Culp's Hill et Cemetery Ridge. Donc les fameuses hauteurs que tous ceux qui s'intéressent un peu à la bataille connaissent, et qui vont être l'enjeu des deux journées suivantes, puisque la question pour Lee va être de savoir est-ce que je me retire pour essayer de livrer bataille autre part, c'est ce que lui suggère son second Longstreet, ou est-ce que je tente le tout pour le tout en essayant de prendre au piège cette armée de l'Union qui, puisqu'elle est là, il faut bien la... Voilà, puisque la bataille est engagée, il faut la livrer. Donc ça, comment dire, le débat entre Longstreet et Lee est aussi au cœur du film, et c'est un débat historiographique qui a 150 ans
ouais,
aux États-Unis.
Justement, c'est une partie très intéressante de ce qui est représenté. C'est donc le général Lee, représenté magnifiquement par Martin Sheen, qui a quand même un talent pour représenter les grands chefs qui est assez exceptionnel. Où on voit le général Lee, mais d'ailleurs c'est un peu étrange, on a l'impression qu'il s'enferme dans une sorte d'obsession de prendre cette ville alors qu'il est en position extrêmement défavorable et que ça ne coûterait pas grand-chose. De ne pas faire ça, que ce serait aussi tout à fait possible, c'est ce que lui suggère donc son second Longstreet, d'aller au contraire de fuir la bataille et d'aller menacer Washington. Et en fait, c'est présenté plus ou moins implicitement comme la bonne solution, la solution qu'il aurait fallu faire. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette représentation de cette espèce de dilemme stratégique de Lee et qui donne l'impression que Lee, donc le général Lee qui enchaîne, en fait, qui est sur la foulée d'un certain nombre de très grandes victoires au sein de cette première séquence, disons, de la guerre de sécession. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette représentation de Lee comme le chef un peu buté, en l'occurrence, qui réussit pas à percevoir tout l'éventail d'options qu'il aurait à sa disposition?
Oui, alors encore une fois, c'est au cœur de débats extrêmement importants. Alors, les admirateurs de Lee, sans concession, essayent de défendre absolument ses décisions. Ceux qui ont défendu Longstreet, au contraire, disent qu'effectivement, il a fait d'énormes bêtises et qu'il n'a pas compris ce qui se passait. Bon, c'est un écheveau complexe, moi je ne prétends pas le résoudre, mais qui est plus complexe que ce qu'on pense déjà, c'est-à-dire qu'il y a un excès de confiance certain, comme vous le disiez, après une série de victoires assez retentissantes remportées par son armée, donc il a une confiance, pas tellement en lui, parce que c'est pas le genre du bonhomme, mais il a une confiance dans son armée et il se laisse un petit peu emporter par cette espèce d'idée que rien ne peut lui résister. Ça, c'est un premier point, ce qui explique aussi le fait que, à partir du moment où il est engagé dans la bataille, il ne la veut pas au départ. Il veut d'abord concentrer son armée avant de prendre une décision, mais une fois que les circonstances font que l'engagement se déploie, il préfère y aller à fond plutôt que de s'arrêter. Mais il a aussi un plan qui est plus complexe que ce qu'on représente parfois. On a l'image de la charge de piquette le troisième jour, hein, la fameuse scène qui, alors qui dure dans le film, est presque une heure de mémoire. Elle est extraordinaire, cette scène de
Et c'est
la charge
étonnant
de
parce que
piquette.
c'est vraiment. Enfin, je sais pas, moi ça m'a fait penser à des images de la guerre de 14, parce
Oh,
qu'il
c'est ça, c'est ça,
y a un
c'est
truc de.
quasiment ça.
On envoie les hommes à la boucherie, les soldats de l'Union sont bien retranchés en contre-eau. Et on en voit quand même vague après vague se faire laminer par
Voilà.
le feu unioniste.
Alors ça, il y a plusieurs aspects à retenir. Il y a effectivement l'ineptie tactique de lancer sur 1,5 km quasiment des brigades bien alignées face à une artillerie, une infanterie de l'Union retranchée. Donc dit comme ça paraît inepte. Et puis sur la réalité du terrain, sur le moment, ça l'est. Mais ça intervient au terme d'un plan que Lee avait imaginé comme étant j'attaque à l'aile gauche, bon ça marche pas, j'attaque à l'aile droite, donc l'ennemi est obligé d'étirer son centre et je suis sûr que son centre est affaibli, donc je vais frapper son centre. il s'est précédé par un barrage d'artillerie, le plus grand barrage d'artillerie de toute la guerre, avec 150 pièces, affût contre affût, dont il espère beaucoup. Il espère vraiment que ça va écraser les lignes de l'Union, que ça va lui permettre de réussir son coup. Et en réalité, bah, les artilleurs tirent trop haut, les batteries de l'Union font mine de s'éteindre une à une, comme si elles avaient été mises hors de combat, alors qu'en réalité, elles attendent simplement l'assaut. Donc, il y a toute une série de circonstances qui fait que cette fameuse charge de Pickett apparaît comme une ineptie, comme un massacre, ce qu'elle est, parce que la moitié de la division, il n'y a pas que Pickett d'ailleurs, plusieurs autres brigades, on résume ça en charge de Pickett, mais c'est plus compliqué. À peu près la moitié des effectifs vont y passer. Donc, c'est terrible, mais la décision n'est pas si inepte que ça si on prend l'ensemble des circonstances de la bataille. Donc, encore une fois, tout ça fait l'enjeu de débats intéressants et de discussions complexes, mais c'est, voilà, la représentation du film est évidemment une représentation un peu simplifiée, manichéenne, et des choses telles qu'elles se déroulent vraiment.
Ouais, soit dit en passant, ça laisse un peu songeur l'idée qu'aux États-Unis, il y aurait un champ historique entier de controverses sur telle ou telle tactique à une bataille. Ça contraste beaucoup avec, disons, la relative faiblesse de ce champ vers chez nous. Mais justement, alors il y a effectivement ces scènes d'artillerie et c'est très intéressant. D'ailleurs, ça, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé assez follement, c'est les armes, quoi. Il y a beaucoup d'armes. Il y a beaucoup d'armes qui sont là et qui font tirer. Et ils les font vraiment tirer. Je veux dire, c'est pas, évidemment, c'est 93, donc c'était pas des effets spéciaux, mais on voit que c'est vraiment des canons de l'époque qui font tirer. Enfin, je veux dire, je me souviens pas de voir un plan séquence où plusieurs dizaines de canons tirent les uns après les autres sans aucun effet spécial. Donc, de ce point de vue-là, et pourtant, je lisais en préparant l'émission que c'est pas un film qui a coûté si cher, mais il y a quand même un niveau de moyens et de précision dans la reconstitution qui est absolument à couper le souffle.
Ah bah encore une fois, ça fait appel aux groupes de reconstitution aux États-Unis qui sont extrêmement nombreux. Qu'on ait n'importe quel nom de bataille importante de la guerre de sécession, vous avez des groupes par centaines, par milliers. Alors, quand c'est des grands événements comme le 150-naire, il y a quelques années, ça peut être peut-être des dizaines de milliers de visiteurs et puis des milliers de reconstituteurs, tous avec leur uniforme, ils amènent des canons qui sont parfaitement entretenus, des fusils, il y a des régiments constitués. Non, c'est quelque chose de très, très impressionnant. Je pense pas absolument pas qu'il y ait l'équivalent ni de près ni de loin chez nous. Peut-être dans certains pays de l'Est quand ils font Austerlitz éventuellement, mais et encore pas à ce degré-là. Donc ça, c'est, j'imagine, après je connais pas les détails de la production du film, mais j'imagine que ça s'est appuyé sur toutes ces forces-là et qui ont travaillé, j'imagine, quasiment bénévolement, par simple plaisir de participer à une fresque de cette importance.
Mais au-delà de ça et de cette question précise de l'artillerie, c'est un film qui insiste beaucoup sur les détails concrets. Enfin, c'est très étonnant, mais par exemple, c'est pas si fréquent.
Très minutieusement reconstitué, monsieur.
Ouais, mais c'est pas si fréquent les films qui montrent des marches. C'est tout bête, mais souvent, quand il s'agit de se déplacer d'un point à un autre, on montre la cavalcade de trois chefs, etc., et puis la colonne qui suit derrière en une demi-seconde. Là, non. Il y a vraiment un désir de montrer que quand on marche, ça prend longtemps, ça fatigue les hommes.
Il y a une lenteur, oui, tout à fait.
Ça fait mal aux pieds. Enfin, il y a des plans sur sur les pieds nus de certains soldats qui est, on le sait depuis longtemps, mais que le niveau d'équipement et le niveau notamment d'équipement en chaussures, c'est très déterminant sur la capacité d'une troupe à pouvoir combattre efficacement. Bref, il y a un désir de peut-être parce qu'il profite aussi des 4h30. J'imagine que si on voulait en faire un film de 2h, c'est probablement ça qui sauterait. Mais il y a un désir de vraiment montrer l'équation, disons opérationnelle. Sur le moment, qui tient compte de la fatigue des hommes, des marches, de l'état des équipements, qui est pas, c'est pas banal quoi, dans la représentation de la guerre au cinéma.
Oui, je suis entièrement bon. Moi, je suis pas un cinéphile averti, donc j'ai pas d'éléments de comparaison très significatifs qui pourraient me venir en tête. Mais le fait qu'on soit sur un film qui a une unité d'action, encore une fois 4 heures sur une bataille de 3 jours, on se laisse le temps de montrer des phases, la colonne de renfort de l'Union qui est encore à 12 miles en arrière du champ de bataille au début du film. Oui, on voit la colonne d'infanterie qui monte, les cavaliers qui se déploient, et effectivement tout ça prend du temps. Les manœuvres prennent du temps. Il y a un côté, il y a un rythme qui correspond justement à la réalité du champ de bataille de cette époque et qu'on a peu l'occasion de voir. Il y a des vieux films de Bondarchuk sur Waterloo. Il faudrait voir s'il n'y a pas des scènes un peu de cet ordre-là. Mais oui, je suis d'accord avec vous. J'ai pas grand-chose à rajouter en réalité.
Non, et une dimension très importante aussi, c'est, mais alors qui est aussi assez largement un cliché dans les films qui tournent autour de la guerre de sécession, c'est ce côté frères séparés qui se retrouvent dans des camps opposés, qui est très fort, c'est avec des personnages, des généraux très précis qui lamentent le fait que la guerre les a séparés, etc. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette représentation de la guerre de sécession comme bon, une sorte de brouille quoi, qui a mal tourné, c'est un peu l'idée. Et l'idée qu'avec un peu de bonne volonté, tout ça aurait peut-être pu être évité, qui est voilà, le discours qui sous-tend entièrement tout ce film. Quoi.
Oui, bah, y a un côté regret qui apparaît même dès cette époque, parce qu'il y a un contexte quand même qui est très très particulier, c'est que c'est un peuple, évidemment les États-Unis, avant la guerre de sécession, sont un peuple en construction, mais un peuple quand même. Et puis les principaux chefs militaires sortent tous du même creuset. Ils sortent tous de West Point, ou quasiment tous de West Point. Ils ont fait carrière ensemble. Souvent, ils ont fait la guerre ensemble au Mexique une décennie avant. Donc, ils sont témoins de mariage les uns des autres. Ils ont passé des années en garnison. Ils sont amis intimes. Parfois, ils ont épousé la sœur ou la cousine. Donc, tout ça, c'est une dimension qui est réelle, hein, qu'on retrouve à tous les niveaux même à tous les niveaux de la société américaine. Alors, qui a été aussi, voilà, ce côté guerre fratricide qui a sous-tendu le côté réconciliation de ces dernières années, et qui fait aussi l'impasse sur un certain nombre d'aspects qu'on retrouve dans le film. C'est pour ça que je disais que le film est un peu vieilli. Par exemple, on ne voit pas je crois qu'il y a un personnage noir dans la totalité du film, de mémoire.
Qui ne parle pas au demeurant.
Voilà, qui est un. Alors, la scène est un peu. Parce que c'est longtemps que j'ai pas vu. C'est un runaway, je pense que c'est un esclave qui s'est enfui et qui donne des indications à l'armée de l'Union sur la position des troupes, il me semble.
Ouais, c'est un esclave qui s'est enfui, qui retrouve, qui soigne vaguement, et c'est le prétexte à une grande discussion sur l'égalité ou non des hommes, quelle que soit leur couleur de peau, qui permet de montrer la grande noblesse d'âme des personnages nordistes et notamment du personnage de Jeff Daniels, donc Chamberlain.
Voilà, donc on est un petit peu dans la grandiloquence du discours, mais effectivement, la réalité fait que ces noirs-là ne sont pas visibles dans le film. Alors, dans l'armée de l'Union, il n'y en avait pas, enfin à cette époque en tout cas, donc ça peut s'expliquer. Encore que si, on aurait certainement pu trouver des conducteurs de chariots, des choses comme ça. Dans les sous-pentes de l'armée, il y avait toujours pas mal de populations noires. Et dans l'armée confédérée, il y en avait aussi quelques milliers qui étaient la plupart du temps des esclaves, parfois des affranchis qui étaient restés avec leur maître, mais qui, pareil, était cuisinier, était musicien, était jamais combattant, hein, on ne leur mettait pas de fusil dans les mains, mais donc voilà, il y a toute cette dimension-là pratique de la relation entre noir et blanc, qu'elle soit au nord ou au sud, qui n'apparaît pas ou quasiment pas dans ce film, et qui évite effectivement de se poser trop de questions, en particulier pratiques, le racisme qui existe dans l'armée américaine bien après la guerre de sécession, par exemple, une question extrêmement gênante, et c'est qui est sous-entendu déjà par la façon dont ils traitent les premiers soldats noirs à cette époque. Donc, il y a cette impasse qui est très visible aujourd'hui, qui n'était pas à l'époque de la sortie du film, mais où on remplace la réalité pas toujours glorieuse de ces relations par, comme vous le disiez, un discours un peu grandiloquent sur l'égalité entre êtres humains que donne le colonel Chamberlain. Donc c'est un aspect que je trouve intéressant dans le film qui fait qu'il est un petit peu vieilli. Il faut le regarder avec un petit peu de recul.
Donc, film à regarder avec un œil critique, mais à regarder quand même, et je peux vous garantir que les 4h30 en question... Alors, j'imagine que ça peut être ennuyeux pour certaines personnes. Je me suis laissé dire qu'à la sortie du film, il y avait un certain nombre de gens qui n'avaient pas trouvé ça palpitant, mais quand on s'intéresse un peu à la chose militaire et quand c'est quelque chose qui vous captive, vraiment, c'est un film qui vous emporte de bout en bout. Vraiment jusqu'à bon, les tirades on peut les couper un peu, mais à part ça c'est les scènes sont vraiment assez prenantes à un point vraiment tout à fait étonnant. Merci beaucoup Vincent Bernard.
Merci à vous.
Je rappelle donc vos ouvrages, aussi bien votre biographie de Lee que celle de Grant, et surtout l'ouvrage le plus récent qui est donc cette synthèse, La guerre de sécession, paru chez Passé Composé, sous-titré d'ailleurs de manière intéressante La grande guerre américaine 1861-1865. Merci infiniment.
Merci.
Hmm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.